France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, l'amour selon Colette. Chapitre 3, les Jouvenel, père et fils, passion limite. À près de 40 ans, Colette a déjà laissé derrière elle deux cadavres de relations amoureuses, celui avec Willy et celui avec Missy. Ce sont les deux principaux, mais on pourrait en trouver d'autres, comme le jeune et riche Auguste Thériault, avec qui elle s'amuse un moment, mais qu'elle délaisse finalement car elle le trouve intellectuellement limité. Quelle vie pour eux après Colette ? Willy, dont le public ne cautionne plus les frasques, ne retrouvera jamais la gloire. Après le scandale du Moulin Rouge, au cours duquel Colette et Missy ont été conspués sur scène pour s'être embrassés, il est renvoyé des deux principaux journaux où il exerçait, car on l'associe trop à ces deux personnages infréquentables. Il se désigne depuis comme le veuf de Colette, sous-entendu, c'est elle qui l'aurait tué. Du côté de Missy maintenant, la riche héritière continuera de donner tout son argent jusqu'à s'en trouver totalement dépourvue. À la fin de sa vie, c'est l'homme de théâtre Sacha Guitry qui paiera pour ses repas, tandis que Colette, elle, ne participera même pas à une souscription qui visait à lui venir en aide. Missy lui avait pourtant fait don de sa maison à Rosven, en Bretagne.
L'amour selon Colette est une série de salles des archives proposées par Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner.
Nous en sommes à présent au moment où Colette entame une nouvelle époque de sa vie, faite d'une grande fièvre amoureuse, dans l'ombre de la Première Guerre mondiale. Celui qu'elle aime à présent s'appelle Henri de Jouvenel. C'est l'un des rédacteurs en chef du journal Le Matin, où elle donne régulièrement des chroniques, et où travaille aussi, en tant que secrétaire, Germaine Beaumont. Nous avons retrouvé le témoignage de cette dernière au fin fond de la salle des archives.
C'était un homme très beau, très grand. Peut-être était-il moins grand qu'il ne m'en donnait l'impression, mais il avait une très très belle prestance. Et il avait un très beau regard. Une certaine arrogance dans son comportement, beaucoup de fierté, beaucoup de... En même temps, il était fier et caressant. C'était un très beau mélange.
Pauline Dreyfus, vous êtes écrivaine, on vous doit notamment le livre « Ma vie avec Colette » chez Gallimard. Quel portrait est-ce que vous feriez, vous, suite à cette archive qu'on vient d'entendre, de Henri de Jouvenel, le nouvel amour de Colette ?
Quand Colette rencontre Henri de Jouvenel, il a 3 ans de moins qu'elle. Et en effet, sur les photos, c'est incontestablement un bel homme. J'ajouterais un bel homme qui le sait, c'est-à-dire que il en use beaucoup auprès des femmes. Il a déjà eu 2 enfants de 2 femmes différentes, une première avec laquelle il a été marié, Claire Boas, une seconde, Isabelle de Comminges, qui a été sa maîtresse, mais il a reconnu leur fils Renaud. Et quand il rencontre au matin, le matin, qui est un journal, il faut bien se dire qu'à l'époque, c'est 1 million de lecteurs quotidiens. Ce sont des chiffres qui font rêver quand on connaît la situation de la presse aujourd'hui. Il est l'un des 2 rédacteurs en chef du matin, donc c'est un homme extrêmement important sur la place de Paris. Colette a besoin d'argent, puisqu'elle vient de divorcer de Willy. Et elle accepte de prendre en charge la rubrique des comptes. Prendre en charge cette rubrique, ça veut dire lire les comptes des autres et éventuellement en publier quelques-uns signés de sa plume.
C'est la chef de la rubrique littéraire d'une certaine manière.
Absolument. Mais elle commence dans des étages très modestes. Henri de Jouvenel va la séduire très vite. Et Colette, dans son immense naïveté, se dit que le bonheur est à sa porte, sans voir que Henri de Jouvenel est exactement le type d'homme qui se lasse très vite d'une femme.
Mais qu'est-ce qui l'a séduit, au fond, chez cet homme ? Alors, on a dit qu'il était beau, il vient aussi d'une grande famille aristocratique. Est-ce que ça peut jouer le pouvoir aussi du rédacteur en chef, des rédacteurs en chef du matin ?
Colette n'a aucun snobisme et il faut, je crois, vraiment lui faire ce crédit. L'idée de devenir baronne de Jouvenel vraiment ne l'effleure même pas et ne lui ferait aucun plaisir. L'idée de d'être une femme mariée, de finalement de rentrer dans le rang, en rentrant dans une grande famille, quitte à faire plaisir à sa mère, Sido, je crois que ça ne l'effleure pas. Et du reste, quand elle écrit à sa mère, qui est au loin, qui est à Châtillon-Coligny, pour lui raconter cette nouvelle liaison, Sido, cette mère exceptionnelle, a une réaction stupéfiante, puisque Sido pense à Missy. Missy qui est la maîtresse délaissée. Missy pour laquelle Sido avait eu une sympathie très vive, très immédiate et très durable. Et Sido pense au chagrin de Missy qui est délaissée à cause d'Henri de Jouvenel. Mais Colette est surtout cette femme qui tourne des pages très vite.
Et là, c'est un chapitre un petit peu différent. C'est un chapitre avec un homme de son âge. Est-ce qu'elle a trouvé finalement une façon de rentrer, je ne sais pas, dans le rang, dans une sorte de normalité ? Est-ce que
non,
ça peut
je pense
jouer...
que d'abord, Henri de Jouvenel, c'est pour Colette la fête des sens. Elle l'a raconté à maintes reprises. Elle a trouvé un homme avec qui elle peut s'épanouir et elle peut jouir.
En décembre 1913, Colette Willy annonce qu'elle arrête la pantomime, ces spectacles muets qu'elle avait inaugurés avec Le Rêve d'Égypte, le fameux spectacle où elle embrassait Missy. Pendant plusieurs années, en plus de son travail de chroniqueuse et d'écrivaine, elle avait en effet poursuivi une carrière d'actrice sur de nombreuses scènes, en France comme à l'étranger. Abandonner la scène représentait pour Colette un tournant dans sa vie, et parmi les raisons qu'elle donne pour l'arrêt de cette carrière, elle n'explique pas publiquement celle qui est sans doute la principale, l'actrice attend un enfant. D'ailleurs, en décembre de cette année-là, elle va aussi se remarier et devenir Colette de Jouvenel des Ursins, une baronne. Quelques mois après leur mariage, son nouveau mari est appelé au front. Colette, qui était en Bretagne avec sa fille, la laisse à une nourrice et rentre à Paris. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans Henri et après 5 mois passés dans la capitale, prend la décision de le rejoindre sur le front. Pauline Dreyfus, comment concrètement Colette peut-elle aller voir son mari qui est à la guerre ? On imagine quelqu'un qui est dans les tranchées. Et pourtant, non seulement elle va le retrouver sur place, mais en plus, ils vont se voir énormément à Verdun presque chaque soir. Comment ça peut fonctionner ?
Je crois que quand Colette veut, Colette peut. C'est-à-dire qu'elle a quand même un carnet d'adresses très étoffé et elle va se débrouiller pour le retrouver sur le front. À Verdun, en effet, en 1917, mais avant à Rome, en 1915, et à la fin 1917, sur le lac de Côme. Donc, à chaque fois qu'elle a envie de le rejoindre, elle y réussit.
Mais comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que lui-même vit sur la ligne de front et est-ce qu'il est dans les tranchées ?
Non, il est officier. Donc, elle ne va pas se retrouver au milieu de la chair à canon, rassurez-vous, et elle va, au fond, le retrouver dans les bâtiments où sont abrités les officiers. Et comme chacun sait, les villes de garnison possèdent des hôtels. Donc, en fait, elle retrouve son mari à l'hôtel. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous mentionniez le fait qu'elle ait arrêté la scène, et notamment ces spectacles tout à fait sulfureux, qui ont fait une partie de sa gloire, il faut bien le dire. La seule raison n'est pas qu'elle était enceinte. La seconde raison est que son mari lui a demandé d'arrêter de se compromettre, au fond. Elle devient baronne de Jouvenel et lui a depuis longtemps l'idée de passer du journalisme à la politique. Et donc, il compte bien que son épouse aura une réputation irréprochable. Même si c'est difficile de mettre le passé sous la moquette. Voilà, et c'est lui qui lui demande d'arrêter la pantomime.
Mais pourquoi s'est-elle mariée, elle qui a justement professé la liberté dans tous ses écrits ? Pourquoi la bague au doigt ?
Elle ne s'est pas mariée, c'est lui qui s'est marié. Il a régularisé, elle est enceinte de 3 mois. L'enfant a été conçu en octobre, elle se marie en décembre. Et la petite Colette, Colette Junior, si je puis dire, portera le nom de Jouvenel.
Est-ce que la fin de la guerre, c'est aussi la fin d'un amour passionnel dans des circonstances historiques extraordinaires, Pauline Dreyfus, pour les Jouvenel?
Alors, ce qui se passe, c'est que la mésentente, peu à peu, s'installe dans le couple pour une toute première raison qui est fondamentale, c'est que Henri Jouvenel décide de se lancer en politique. En 1916, il est nommé chef de cabinet du secrétaire d'État à la marine marchande. Vous savez, le genre d'intitulé qui m'enchante parce qu'on ne les a plus aujourd'hui, qui s'appelle Anatole de Monzy. Mais surtout, en 1921, il se fait élire sénateur de la Corrèze, qui est son fief d'origine, puisque la maison familiale, Castelnovel, est en plein cœur de la Corrèze. Et de ce jour, il va avoir une vie d'homme politique, de notable, si l'on peut dire, et il va infliger la présence d'homme politique à sa femme.
Ce qui l'ennuie particulièrement.
Colette a, depuis son plus jeune âge, eu une aversion profonde pour les idées générales, pour la politique, pour le pouvoir, pour l'ambition des hommes. Elle dit elle-même qu'elle laissait les hommes retourner à leur poison véhément. C'est comme ça qu'elle appelle la politique. Je crois qu'on peut pas être plus clair. Et donc, les centres d'intérêt des époux Jouvenel divergent très vite. Elle retourne faire la nouba à Montmartre avec Francis Carco. Elle s'occupe de ses bêtes, parce que je vous rappelle que Colette est très attachée à ses bêtes. Et Henri de Jouvenel, qui par ailleurs est un polygame avéré, très vite va voir d'autres femmes.
Et ça blesse énormément Colette, qui a besoin de cette réassurance, au fond, que constitue la fidélité dans le couple.
Je crois qu'elle n'est pas surprise. Je crois qu'elle a très vite compris que Henri de Jouvenel était un séducteur patenté. On dirait aujourd'hui, d'une façon un peu grossière, il sautait sur tout ce qui bougeait. Et elle ne pourra jamais l'en empêcher. Elle est vexée, elle est jalouse. Mais elle va lui infliger une blessure d'amour-propre tout à fait intéressante.
En 1950, Colette se souvient, à la radio, d'une anecdote qui en dit beaucoup sur la relation abîmée entre elle et Henri de Jouvenel.
Je me souviens que cet homme charmant que j'avais épousé en seconde noce et qui s'appelait Henri de Jouvenel me vit sans doute assez embarrassé dans un travail, comme vous dites, romanesque. Puisqu'un jour, il me dit qu'un bon roman ne saurait se passer de plomb. Et il m'offrit même, pour me montrer comment on faisait, il m'offrit même de me rédiger pour moi un plan. Je crois bien sans en être sûr, qu'il s'agissait de Chéri. Alors, il m'a rédigé un plan qui sûrement, même typographiquement, me paraissait extrêmement bien ordonné et qui comportait 22 chapitres, je n'ai pas pu l'oublier. Je ne sais pas quelle a été ma sotte réaction devant la vue seule d'un plan que je n'avais pas conçu, mais je me souviens très bien que je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ceci ramena d'ailleurs la bonne humeur. Et Henri Jouvenel me promit de ne plus jamais essayer de rédiger pour moi ni de me conseiller la rédaction d'un plan.
Extraordinaire cette archive, parce que Henri Jouvenel s'attaque à ce qu'elle a de plus précieux, qui est son identité de femme de lettres. Elle n'a pas d'argent, elle n'a plus de famille, mais au moins elle a ça qui lui tient lieu de colonne vertébrale et il va s'aviser de s'en mêler. Je comprends la réaction de Colette, qui est scandalisée.
Surtout que s'il y a quelqu'un qui a du talent dans le couple littéraire, c'est évidemment elle. Est-ce qu'elle ne pleure pas aussi dans cette archive sur la fin de ce grand amour auquel elle a malgré tout vraiment cru et sur la fin d'un moment de confiance mutuelle et d'amour charnel, finalement, sur cette parenthèse enchantée dans sa vie amoureuse?
Je le crois aussi. Il faut bien voir que tout ce qui avait fait son charme aux yeux d'Henri Jouvenel, c'est-à-dire le côté saltimbanque, bohème, la fantaisie, la liberté d'esprit, tout d'un coup se retourne contre elle et elle devient une épouse gênante au moment où il se notabilise, où on l'invite à dîner à l'Élysée, où il doit recevoir le préfet en Corrèze et où il lit dans les gazettes locales que son épouse a autrefois montré ses seins au public à Lyon. C'est très gênant.
Alors que le couple Jouvenel semble se distendre, Colette passe l'été 1920 à Rosven sans lui. Sans lui, mais pas seul pour autant, puisque son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, l'y a accompagné. C'est un adolescent timide et intelligent, dont l'écrivaine de 47 ans se charge de faire l'éducation. Plus tard, il écrira « Les plaisirs qu'elle me donnait étaient tous ceux que procure l'ouverture sur le monde que je lui devais entièrement. » Bientôt, tout le monde est au courant de cette liaison, sauf son père, Henri de Jouvenel lui-même. Pauline Dreyfus, comment est-ce que vous qualifieriez cet amour de Colette pour le jeune Bertrand de Jouvenel ?
Les mauvaises langues ont expliqué au départ que c'était tout simplement une vengeance à l'égard de son mari. Quoi de plus humiliant qu'un mari qui vous a cocufié de le tromper avec son propre fils ? Mais à vrai dire, cette histoire qui a tout de même duré 5 ans a été une vraie passion. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, une passion de part et d'autre pour des gens, un homme et une femme qui avaient tout de même 30 ans de différence, puisque Colette est née en 1873 et Bertrand de Jouvenel est né en 1903. Elle a été plus qu'une maîtresse, elle a été une mère. Il disait lui-même qu'elle lui avait appris la saveur d'une crevette, le goût du vent, l'odeur des fleurs, toute une sensualité qu'il ignorait jusque-là. Et elle lui a fait, à mon sens, le plus beau des cadeaux, c'est qu'elle l'a emmené dans cet ermitage qui est Saint-Sauveur-en-Puisaye. Saint-Sauveur-en-Puisaye, c'est sa maison natale, c'est là où elle a grandi. Et c'est à Saint-Sauveur-en-Puisaye que Bertrand de Jouvenel lui a dit « Je pense que vous devriez rédiger vos souvenirs d'enfance ». Il en est résulté la maison de Claudine, qui est, à mon sens, le chef-d'œuvre de Colette.
Un autre chef-d'œuvre de Colette, c'est le roman Chéri, qui raconte l'histoire d'une femme âgée et d'un adolescent. Ça paraît presque prémonitoire, parce que c'est une histoire qui est écrite avant la liaison entre Colette et Bertrand de Jouvenel.
Bien sûr, c'est un livre prémonitoire, elle le disait elle-même. Le vrai livre qui est inspiré par sa liaison avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, c'est Le blé en herbe. Mais la fin de Chéri a été écrite avant.
Et que dit Le blé en herbe de cette relation, selon vous ?
Alors, elle a beaucoup changé les choses, parce que dans Le blé en herbe, la femme âgée, entre guillemets, qui séduit un jeune homme, n'a que 32 ans, si je puis dire. Colette a quand même 47 ans au moment où elle commence sa liaison avec Bertrand de Jouvenel.
Il faut partir, Philippe.
Non, pourquoi ? Je suis très bien ici.
Non, mon chéri, il faut partir. Et puis tu reviendras.
Quand ?
Demain, si tu veux.
Demain, c'est aujourd'hui.
Ah non, allons, allons, allons.
Qu'est-ce que vous voyez dans l'attirance pour la jeunesse de Colette ? Est-ce que c'est l'attirance pour la vie elle-même qui s'incarne dans cette jeunesse de Bertrand de Jouvenel, qui était mineur et donc qu'aujourd'hui on regarde avec un œil différent ?
Oui, alors Bertrand de Jouvenel était tout à fait consentant. Et pour elle, cette liaison, c'est tout de même sa dernière grande histoire d'amour, au sens où voilà, tous les sens sont sollicités. Je ne crois pas qu'il faut juger Colette à l'aune de notre regard contemporain.
Nous avons retrouvé la voix de Bertrand de Jouvenel, devenu entre-temps fondateur de la revue de prospective Futurible, dans cette émission de 1973.
Est-ce que les femmes ont joué un grand rôle dans votre vie ? Écoutez, ça, je dois dire que c'est un peu personnel. Je vous ai dit que ma femme était l'essentiel de ma vie. Il y a 35 ans de cela. Je veux dire que, d'ailleurs, en vieillissant, je m'aperçois, je reconnais mieux le rôle que ma mère a joué dans ma formation. Je reconnais qu'il me vient à l'esprit des citations qu'elle faisait, des adages, et je suis reconnaissant, je pense à elle, d'autant plus que je vieillis. Mais comme je vous l'ai dit, par ailleurs, ma vie est comblée par ma femme, et elle est le ressort essentiel de ma vie et le pivot de mon existence.
Qu'est-ce qu'on peut entendre derrière cette archive-là, Pauline?
C'est très intéressant parce que malgré cette déclaration d'amour à l'égard de sa femme, quand Colette a eu droit à des obsèques nationales en août 1954, la seule personne qui a, non pas pleuré, mais sangloté, c'est Bertrande Jouvenel. Et tous les gens qui assistaient à cette cérémonie en ont témoigné. Donc là, il met un pan de son passé sous la moquette, ce que je peux comprendre, parce qu'il était devenu un homme respectable, il avait fondé une famille. Mais Bertrande Jouvenel a été extrêmement redevable à Colette. Et ce qui est intéressant en plus dans cette archive, c'est qu'il rend hommage à sa mère, Claire Boas.
Qui était très contre la liaison
alors que
de
les choses
son fils avec Colette.
Évidemment, pas été si simple. On se met à la place de Claire Boas, qui apprend que sa femme, son fils, pardon, a une liaison avec la femme de son père, avec sa belle-mère. Elle tente de lui faire faire un beau mariage. Il dit oui au départ. Les fiançailles sont annoncées. Au dernier moment, ils rompent les fiançailles parce que Colette lui a envoyé un petit message disant « je t'aime » par la fenêtre. C'est très gênant vis-à-vis de la famille adverse parce qu'on annule tout au dernier moment. Elle va finir par réussir à le marier, ou plutôt à le caser, parce qu'elle considère que son fils doit faire une belle carrière et donc il doit avoir une femme à ses côtés. Et Colette s'incline parce qu'elle sait que de toute façon, l'âge joue contre elle. Mais on ne peut pas dire que la mère de Bertrand de Jouvenel a été la mère la plus compréhensive de la Terre.
Alors dans quelles circonstances Colette va-t-elle divorcer? Comment est-ce que ça se passe?
C'est comme souvent dans les divorces, j'imagine, un ensemble de raisons. Elle a cette liaison avec son beau-fils qui est connu de tous. De son côté, Henri de Jouvenel, après avoir pris pour maîtresse une des très proches amies de Colette, Germaine Patat, s'affiche avec Marthe Bibesco. Il a
une princesse
que Madame de Jouvenel, mère, voit d'un très bon œil. Elle aimerait beaucoup que son fils épouse cette femme très bien née. Bon, ça ne se fera pas. Donc, ils vivent déjà très séparés l'un de l'autre, avec des centres d'intérêt extrêmement divers. Et puis, un jour, elle rentre au domicile conjugal Boulevard Suchet. Elle trouve un petit mot de son mari, tout ça est d'une banalité affligeante, qui a fait ses valises, qui est parti. Et elle dit « Mon mari me quitte et nous divorçons ».
Dans les archives, aucun intervieweur n'ose vraiment faire parler Colette de cette liaison scandaleuse avec le jeune Bertrand de Jouvenel. Certains, pourtant, jouent avec le feu en faisant un détour par l'analyse de ces personnages.
Est-ce que vous n'avez pas pensé aussi, en montrant ce personnage dans ces situations, que vous condamniez aussi certains amours, certaines formes d'amour, cette dame mûre qui s'éprend d'un jeune homme va au-devant des pires catastrophes?
Mais non. Pas de préservation, pas trop de précautions, je vous en prie. Non. L'aventure éternelle a droit à une éternelle littérature. Mais non. Oh non, je n'ai rien stigmatisé. Oh non. J'en avais pas envie. C'est pas à moi de juger de si haut. J'ai été dans la fournaise comme les autres.
extraordinaire. J'ai été dans la fournaise comme les autres. Avec, vous avez noté, cet accent bourguignon qu'elle n'a jamais perdu tout au long de sa vie, avec cette façon de rouler les airs que je trouve extraordinaire. Colette est l'opposé d'un censeur. Elle va jamais condamner les mauvaises mœurs, parce que je pense que pour elle, il n'y a pas de mauvaises mœurs.
Elle ne peut pas condamner ce qu'elle a elle-même pratiqué, parce que, en l'occurrence, la différence d'âge, c'est bien ce qui est arrivé dans sa relation avec Bertrand Jouvenel.
Absolument, mais pourquoi le condamnerait-elle? Car au fond, chacun a apporté beaucoup à l'autre. Et après, qui sommes-nous pour juger d'une telle histoire d'amour? Je pense que Bertrand Jouvenel n'a jamais eu lieu de se plaindre de cette histoire dont il disait lui-même qu'elle lui avait ouvert les yeux, elle l'avait fait mûrir. Il faut imaginer ce garçon de 16 ans, maigre, enfermé dans les livres, sortant de pension, au fond, ne connaissant rien à la vraie vie, à la sensualité, et elle lui a fait découvrir le monde. Donc je crois qu'il pouvait pas se plaindre. Et elle, il lui a offert une magnifique arrière-saison.
Dis-moi donc, petit, je ne peux pas mener mon auto plus loin dans ce chemin-là, n'est-ce pas? Par politesse, Philippe se leva, s'approcha, et ne rougit que quand il fut debout, en sentant sur son torse nu le vent rafraîchi et le regard de la dame en blanc qui sourit et changea de ton.
À la question de savoir s'il faut condamner Colette pour avoir aimé Bertrand de Jouvenel, l'écrivaine Simonetta Greggio livrait son opinion dans l'émission Du jour au lendemain. En 2009, elle y était invitée pour son roman Les mains nues, qui évoque un amour entre une femme mûre et un adolescent, Giovanni.
C'est le deuil de la virginité, pas de l'enfance. Cette enfance, on peut la garder en soi avec toutes les blessures que l'âge vous inflige. Et c'est un choix de la garder. Et cet enfant va être un homme très bien, comme Bertrand Jouvenel l'a été lorsqu'il a été initié, entre guillemets, par Colette. Et il avait 15 ans, c'était le fils de son deuxième mari, Henri de Jouvenel. Et je crois que Colette lui a fait plus de bien que de mal. Et d'ailleurs, Bertrand Jouvenel, qui était un type d'une rare intelligence et d'une sensibilité extraordinaire, lui a rendu hommage dans le seul livre écrit. C'était pas de la fiction, c'était un témoignage. Il a écrit à la fin de sa vie « Revoir Hélène », qui était la femme de sa vie, qui est morte, qui l'a accompagnée dans cette mort. Et très brièvement, il a rendu hommage à cette tendresse presque masculine que lui avait témoignée Colette pendant son adolescence et qui lui a permis de devenir un homme.
Vous êtes d'accord avec Simonetta Greggio?
Alors, oui, sauf sur l'expression tendresse masculine, parce que je dirais au contraire tendresse maternelle. Colette a eu des égards pour Bertrand Jouvenel qu'elle n'a malheureusement jamais eu pour sa propre fille, Colette de Jouvenel, avec qui, comme vous le savez, elle a eu une relation complètement manquée. Celui qu'elle a emmené à Saint-Sauveur en Puisaye sur les traces de son enfance, c'est Bertrand de Jouvenel, c'est pas Colette de Jouvenel. Donc je ne parlerai pas de tendresse masculine.
Par ailleurs, est-ce qu'il y a une tendresse masculine et une tendresse féminine?
Oui, c'est tout à fait discutable, je suis d'accord.
Est-ce que vous pensez que Colette a des conseils à donner en matière amoureuse? Est-ce qu'il faudrait les suivre?
Colette a quand même un très bon conseil. Colette est une femme qui tourne des pages. Pas seulement dans les histoires amoureuses, mais par exemple pour ses logements. Vous savez qu'elle a eu 17 logements différents. Elle disait, quand un appartement ou une maison a rendu tout son suc, il faut le quitter. Eh bien, je crois qu'elle pensait la même chose des hommes ou des femmes. Quand une histoire est terminée, ça ne sert à rien de s'acharner, ça ne sert à rien de pleurer. Il faut toujours aller de l'avant. Je crois qu'elle avait un optimisme fantastique. Et ça, c'est une leçon de vie.
Alors que Colette entre dans la cinquantaine et qu'elle va bientôt trouver un nouvel amour, il est temps pour nous de faire un pas de côté afin d'explorer d'autres façons pour elle d'aimer, l'amour filial et l'amour maternel qui réservent là encore bien des surprises.